Aujourd'hui, notre année est bien plus rythmée par les grandes vacances que par l'année civile ou par le calendrier liturgique, en fait. Le 1er septembre, c'est demain, et la rentrée est là. Notre bulletin est paru, vous pouvez le prendre sur la table, le lire sur Internet. L'équipe de catéchisme commence à se rassembler pour prendre son élan, pour s'occuper des enfants dans 15 jours. Progressivement, les activités reprendront. Et donc d'abord, bonne année à vous. Bonne année pleine d'élan, avec des bonnes résolutions qui nous permettent de nous mettre comme ça en route, dans de bonnes dispositions bien positives. Et pour commencer l'année, je vous propose de vous inspirer de l'Évangile selon Jean, qui donne en introduction de son Évangile, de son témoignage sur Jésus, un incroyable discours sur la méthode finalement. Alors bien sûr, c'est donc Jean 1, chapitre 1, les versets 1 à 18. Au commencement était la parole, et la parole était à Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous aient confiance par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont confiance en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité, la tendresse et la fidélité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a fait connaître. Alors en fait, après ce discours sur la méthode, il y a un chapitre de plus qui se trouve à la fin de son évangile, donc au chapitre 20, les versets 30 à 31, Jean revient pour expliquer de quoi il parle dans son livre et comment l'utiliser. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous ayez confiance en Jésus comme Christ, comme Fils de Dieu, et qu'en ayant confiance, vous ayez la vie en son nom. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter pour laisser le temps à ces paroles de résonner en nous. Dans le petit recueil, Louange et prière, le cantique 172, Célébrons l'Éternel, les trois strophes. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous unir à ta vie. Fais taire en nous toute voix contraire à la tienne et permets que nous sachions recevoir ta parole, non seulement l'entendre, mais aussi la recevoir, non seulement la connaître, mais aussi l'aimer, non seulement la goûter, l'apprécier, mais la mettre un peu en pratique. Et pour cela, ouvre par ton esprit, nos cœurs, notre vie tout entière, à ta fidélité. Un point essentiel de l'introduction que donne Jean à son témoignage, c'est cet incroyable « personne n'a jamais vu Dieu ». Alors je trouve cette phrase bien libérante, car il y a toujours des personnes pour dire que leur parole, que l'enseignement de leur Église, que leur religion est la vérité ultime sur Dieu, sur la vie, sur la prière. Alors ce n'est pas la peine de se laisser impressionner, nous dit Jean ainsi. Il nous rassure « personne n'a jamais vu Dieu ». Eux non plus, ces gens qui pensent avoir la vérité, ni moi non plus, finalement, nous dit Jean, ni Moïse non plus. Le rapport que nous pouvons avoir à la vérité est donc bien plus complexe que d'être dans le vrai et dans le faux. Heureusement que Dieu n'est pas visible. Sinon, nous ne serions pas libres. L'humanité serait dans une secte dont Dieu serait le gourou légitime, car il est Dieu, lui. Mais en étant visible, il en serait le gourou quand même, tyrannique, empêchant toute interprétation personnelle. À la moindre question qui se poserait, comment oserions nous-mêmes avoir une opinion personnelle? Nous irions demander une audience auprès du grand Dieu, qui serait peut-être dans un palais de marbre avec des tapis de haute lisse et puis de l'or partout, ou qui serait peut-être au contraire dans une humble étable à l'image de Jésus. Nous irions demander au roi des rois des explications sur telle parole, la véritable interprétation, la réponse à la moindre question théologique ou éthique, sur tel projet de loi, ou savoir s'il fera meilleur en juillet ou en août pour partir en vacances. Peut-être même que Dieu serait assis là, dans une des stalles de l'oratoire, se grattant la gorge ou fronçant le sourcil quand le pasteur dit un peu n'importe quoi. Où serait alors la liberté d'interprétation ? Où pourrait être l'effort de recherche personnelle qui est la clé, en fait, d'une véritable sincérité? Quelle place resterait-il pour le caractère personnel du témoignage qui est dans l'interférence, finalement, entre ce que nous sommes, ce que nous avons vécu et ce qui nous est dit dans le texte? Témoignage aussi tissé de la relation avec la personne dont nous témoignons, Dieu, Jésus, et puis notre témoignage sur la vie. Personne n'a jamais vu Dieu. Et donc, Moïse n'a pas vu Dieu non plus, nous dit Jean. Il est pourtant écrit dans la Bible, dans la Torah, que Moïse a rencontré Dieu face à face et qu'il l'a vu au moins de dos, au moins en passant. Alors tout le monde, bien sûr, connaissait par cœur cette histoire de Moïse. Et donc quand Jean nous dit « personne n'a jamais vu Dieu », il nous dit que cela n'a pas de sens de lire la Bible au pied de la lettre, que ce que raconte la Bible doit être interprété. Alors c'est déjà un point important du discours sur la méthode que nous propose Jean pour commencer l'année, pour commencer notre recherche de Dieu, pour commencer notre lecture de la Bible. Mais Jean étoffe son dossier sur le statut de la Bible. Il nous dit que c'est Moïse qui nous a donné la loi, la Torah. Il ne nous dit pas que Moïse aurait transmis la Torah, que Dieu lui aurait dictée ou qu'un ange lui aurait soufflé dans l'oreille. Non, Jean présente la Torah comme un témoignage de Moïse, un témoignage personnel sur Dieu, sur son expérience de Dieu. Et donc la Torah elle-même est une interprétation donnée par son auteur, et cette interprétation ne peut pas être prise au pied de la lettre. Alors ça, c'est quand même très libérant, mais en même temps, c'est un envoi en mission, c'est à interpréter. Et par la même occasion, Jean indique le statut du livre qu'il présente à son lecteur, un statut modeste de son témoignage. Personne n'a jamais vu Dieu, nous dit-il, et donc Moïse non plus, mais lui non plus, Jean. Et pourtant, il va nous parler de Dieu. Ce qu'il a vu, ce n'est pas Dieu, nous dit-il, c'est Jésus de Nazareth. Et que Jésus nous a fait connaître Dieu, vraiment. Pourtant, Jean apporte plus loin, dans son livre, ce témoignage avec Philippe. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. » Et Jésus lui répond, « Il y a longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Il y a donc écrit dans le même évangile selon Jean, à la fois que personne n'a jamais vu Dieu, et qui a vu Jésus a vu le Père. Jean se place donc lui-même, et il place son livre dans la même situation qu'il inflige à Moïse et à sa Torah. Il faut interpréter ce qu'il dit. Les paroles, les gestes, la façon d'être Jésus font connaître Dieu. Donc, dans un certain sens, Jésus le donne à voir, mais pas au sens objectif du terme. Jésus, sa façon d'être, ses paroles, ses actes sont en eux-mêmes une interprétation de Dieu. Et quand Jean nous dit qu'il témoigne de ce Jésus, il s'agit donc de son interprétation personnelle sur l'interprétation que Jésus apporte de Dieu. Et maintenant, quand nous lisons l'évangile qui va s'ouvrir quelques mots après cette introduction qu'il nous donne, c'est une troisième couche d'interprétation que nous sommes appelés à apporter finalement. Et aucune interprétation, bien entendu, ne pourra en faire le tour, ni de l'évangile selon Jean, et encore moins de Jésus, et encore moins de Dieu, bien sûr. Alors ce prologue de Jean, c'est un des textes les plus commentés au monde. La Bible elle-même ouvre à une multitude d'interprétations légitimes. Et par exemple, la Bosseb, une bibliothèque œcuménique qui est rue d'Assas, à Lakato, elle ne comprend que des livres qui portent sur la Bible et elle comprend plus de 45 000 ouvrages. Et c'est bien la moindre des choses, car quand il est écrit dans le livre de l'Exode que Moïse rencontrait Dieu face à face, il faudrait en fait mettre des pluriels au mot « face ». Car ce mot est toujours au pluriel en hébreu, c'est panim. Dieu est un être à mille facettes comme un diamant. Et chacun de nous a de multiples regards. De sorte que tout témoignage est précieux, est irremplaçable. Il rencontre de ce face à face entre une de nos facettes et une des facettes de Dieu. Chacun des témoignages permet d'approcher la réalité complexe qu'est un être vivant, particulièrement quand c'est Dieu. De sorte que quand on en a eu une certaine expérience, on peut dire honnêtement qu'on l'a vu, mais pourtant on n'a pas tout vu, bien sûr. C'est un témoignage, une interprétation selon un point de vue qui est nécessairement personnel, subjectif et complexe, comme nous le sommes et comme Dieu est encore plus complexe. Et puis demain, nous dirions encore autre chose, parce que Dieu a changé, car il est le vivant, et il évolue, nous dit la Bible, il se convertit, il change. Que nous-mêmes, Dieu voulant, nous évoluons, nous changeons, et donc nous trouverons autre chose qui nous parle dans le même passage biblique que nous relirons encore demain. Donc, ne nous laissons pas impressionner par l'interprétation des autres. Le monde et même Dieu a besoin de notre interprétation personnelle. D'ailleurs, Jean insiste sur le fait que c'est une communauté, un « nous » qui a reçu ce que transmet Jésus comme connaissance véritable de Dieu. Il nous dit « La parole a été faite chair, elle a planté sa tente parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. » Puis Jean dit « Personne n'a jamais vu Dieu, celui qui nous l'a fait connaître, c'est le Fils unique qui est dans le sein du Père. » C'est donc un « nous » qui a reçu cette connaissance. Mais Jean n'apporte que son témoignage, qui ne peut pas faire le tour de la question. Son témoignage est partiel, il est orienté, nous dit-il dans sa conclusion. Il a sélectionné, il a trié dans une intention. Pour nous, il a trié, il a présenté ça comme ça. Et son témoignage s'ajoute à celui de Matthieu, de Marc, de Jean, de Marc et de Luc, et de tant d'autres témoignages à son époque où la mémoire du Jésus historique était encore toute fraîche dans les mémoires, où d'autres personnes étaient encore vivantes, se souvenant de rencontres avec Jésus. Toute lecture de l'Évangile est ainsi une interprétation parmi d'autres, d'une interprétation de Dieu. Cela relativise notre petite interprétation, même celle qui est faite de cette très haute chair de l'oratoire. Même quand le Saint-Esprit nous a un peu éclairés, ce n'est qu'une interprétation. Mais cela dit aussi l'importance de s'ouvrir soi-même à la richesse de ce « nous » finalement, pour sans cesse enrichir cette connaissance de Dieu qui nous vient du Christ et d'ajouter notre témoignage, notre interprétation à celle des autres. C'est à cela que servent bien des activités de l'Église, non à recevoir l'interprétation qui serait la bonne, mais à nous ouvrir à autre chose que notre seule interprétation. Et en étant ici ensemble, chacun personnellement pensant, avec ce qu'il est, avec ce qu'il est venu, ce qu'il a apporté dans son sac à dos, comme espérance, comme vécu, comme pensée, comme personnalité, eh bien, nous pouvons puiser dans ce « nous » que nous formons ainsi en nous rassemblant une humilité. Mon interprétation n'est qu'une interprétation parmi la diversité des sensibilités et des histoires. Et puis, les autres à côté ont aussi leur propre opinion. Et c'est pourquoi, à la fin du culte, nous ne faisons pas un vote d'un texte avec des amendements pour avoir l'interprétation du prologue de Jean. Mais non, nous repartons avec quelque chose, avec l'impérieuse nécessité de forger notre propre interprétation, de donner notre propre réponse à ce qui est dit dans ce texte et ce que nous aurons à cœur. Nous pouvons donc, j'espère, avoir cette humilité, mais aussi, en venant ici, la fierté d'être digne, d'avoir chacun son interprétation et d'être capable de la faire vivre, évoluer, peut-être demain, grâce à Dieu. Dans un sens, plus les années et les millénaires passent depuis le Jésus historique, plus il est loin de nous et plus cette chaîne d'interprétation et leur dispersion pourrait affaiblir peut-être la connaissance de Dieu reçue en Christ. Eh bien non, au contraire, le trésor de millénaires de débats d'interprétation est une richesse et un approfondissement croissant de ce que Jésus a apporté comme témoignage sur Dieu. Et nous avons à participer à cet enrichissement, à le traduire pour notre époque, pour que nos faces voient ce que Jésus-Christ nous donne à connaître des faces de Dieu. Mais maintenant, Jean donne ici son interprétation de ce qui est essentiel dans ce que Jésus apporte à l'humanité, ce qui est essentiel selon lui. Et ce qui a le plus touché Jean n'est pas la révélation au sens d'une loi, comme si Jésus était un nouveau Moïse amélioré, 2.0. Non, Jésus n'a pas donné l'équation de Dieu non plus. C'est la seconde mise au point que Jean apporte sur la Bible en nous disant qu'est-ce qu'il a retenu d'essentiel sur Jésus. Quel est le sens de ce qu'il va témoigner dans son évangile? Alors il nous dit, la loi, la Torah a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce qu'apporte Jésus est donc d'un autre ordre qu'une loi, qu'une révélation. Il apporte quelque chose qui est de l'ordre de la grâce et la vérité. Cette paire de mots que Jean dit et répète ici, la grâce et la vérité, elle est bien connue dans la Bible. Elle apparaît plus d'une trentaine de fois ainsi dans le Premier Testament pour dire la bonté et la fidélité de Dieu pour nous. Sa bonté pour aujourd'hui, c'est la grâce, et sa bonté qui ne se lasse jamais, c'est sa fidélité. Donc quand on traduit ce mot par vérité, le mot fidélité par vérité, c'est une traduction trompeuse car elle peut laisser penser à quelque chose comme une connaissance, un dogme, une théologie, une morale qu'aurait révélé Jésus-Christ, qui serait donc comme un nouveau Moïse. Mais non, ce que manifeste Dieu en Christ, ce n'est pas une vérité dans ce sens, mais c'est une manière d'être, nous dit Jean. Et cela se confirme d'ailleurs quand Jean présente la parole de Dieu qui s'incarne en Christ. Jean insiste pour dire que cette parole est la parole créatrice de Dieu, ce qui n'est pas en hébreu le même mot que la parole qui est de l'ordre de la connaissance et qui est dans les 10 paroles de la loi de Moïse. Donc la parole de Dieu qui s'incarne en Christ, c'est cette parole de Dieu qui vient, qui plante sa tente parmi nous, en nous, au milieu de nous. C'est une façon d'être, positive, dynamique, créatrice. Et comment est-ce que ça se manifeste en Christ? Voici le témoignage de Jean. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui nous l'a fait connaître. Donc ce Christ qui nous a fait connaître de Dieu, comment est-ce que Jésus nous le présente? Qu'est-ce qui l'a bouleversé, lui faisant vraiment découvrir Dieu, sa parole créatrice, la bonté, la fidélité de Dieu? Jean montre ce Christ comme un fils que Dieu est en train d'engendrer, d'enfanter, un fils qui est encore dans le sein du Père. Ce n'est donc pas tant ce que Jésus enseigne, et pourtant c'est génial. Ce n'est pas tellement les guérisons qu'il a opérées, ni ses actes signifiants qui révèlent Dieu, tout ça c'est très bien, mais ce ne sont que des fruits de ce que Jésus est à un moment donné de sa vie, dans une situation donnée, d'une rencontre, d'une occasion. Ce qui manifeste profondément Dieu en Jésus, selon Jean, c'est le fait que Jésus soit et demeure en Genèse, qu'il est le Fils de Dieu et qu'il continue de plus en plus à le devenir d'une façon unique et particulière, en étant et en restant dans le sein du Père, dans cet enfantement, dans cet engendrement. Et effectivement, quand on regarde l'Évangile, il y a bien des passages où Jésus évolue, et évolue non sans peine en fait. Quand il combat contre les tentations, quand Marie le pousse à passer à l'action dès le deuxième chapitre de l'Évangile selon Jean, quand il refuse d'être roi du peuple qui le demande, quand il renvoie les disciples pour aller prier seul dans la montagne, dans la nuit, quand il les interroge, ses disciples, pour lui demander « Mais qui est-ce que je suis, moi, selon vous ?» Ce n'est pas simplement une question rhétorique. Et quand il entend Dieu sur la montagne et qu'il en redescend néanmoins, quand il dit oui à Gethsémané, quand il pleure avec Marthe sur la mort de son ami, du frère de Marthe, quand le jeune homme riche part et l'abandonne et que Jésus frémit de compassion et pris aux tripes, et dans 1000 autres passages qui montrent Jésus comme fils encore, encore dans le sein du Père, Dieu engendrant en lui des capacités sans cesse nouvelles de bonté et de fidélité, mais lui donnant aussi d'aider ceux qui le rencontrent à devenir un peu plus eux-mêmes bonté et fidélité. Et dans cette capacité d'évolution chez un homme comme Jésus, qui était déjà vraiment impressionnant pour ceux qui le rencontraient, c'est ce qui a frappé Jean. Son interprétation est que Jésus a manifesté Dieu comme source de création et comme Père, comme source d'engendrement. et la capacité à devenir meilleur qu'a eu Jésus est une interprétation de ce Dieu créateur. Jésus l'interprète par son être même qui est en croissance. Et c'est cela que Jean interprète pour nous ici. Cette connaissance de Dieu n'est pas une connaissance livresque. La question, nous dit Jean, c'est de recevoir ce même pouvoir qu'avait Jésus de devenir enfant de Dieu, de se laisser enfanter ainsi, et être comme Jésus, un enfant que Dieu est en train d'engendrer. Jésus écrit son évangile pour ça. Comme il le dit aussi dans la conclusion de son évangile, « Ces choses ont été écrites, nous dit Jean, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Mais bon, bien sûr, le verbe « croire » ici, ce n'est pas le verbe de la croyance, c'est un autre mot qui serait utilisé, c'est le verbe de la confiance, suggérant de ne pas être dans une certitude de connaissance de Dieu, mais d'être dans une espérance tournée vers Dieu et non dans un savoir sur Dieu ou sur le Christ. C'est pour cela que nous sommes ici ce matin, les uns et les autres, avec la Bible au milieu, avec cet effort d'interprétation qui est symbolisé par cette chaire et qui n'est pas réservé, bien entendu, au pasteur. La Bible est ouverte pour que chacun, chacune puisse la lire, l'interpréter, la prendre chez soi. Et donc oui, nous sommes réunis ici avec la Bible, avec cette interprétation personnelle toujours à faire, avec notre prière, pour que chacun puisse ainsi s'ouvrir à un engendrement. Et la bonne religion pour chacun de nous, la bonne façon de prier, la bonne façon d'interpréter la Bible, la bonne paroisse, la bonne fréquence pour aller au culte, eh bien, celle sera celle que vous sentirez vous permettre de devenir, grâce à Dieu, un peu meilleur, dans le sens de la bonté et la fidélité. Sans cela, ce n'est pas la peine de pratiquer. Personne n'a jamais vu Dieu, mais nous pouvons le connaître vraiment, nous dit Jean. Nous pouvons le connaître de deux façons. Directement, en expérimentant Dieu comme source d'engendrement de notre être. Et nous pouvons entrer dans cette communauté d'interprètes de ce que le Christ révèle du Père, le Christ en train d'être engendré. Et ces deux sources se complètent et se nourrissent mutuellement. Amen.